sous le vélo. La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
À 7h13, les voix de l'économie. Et avec votre invité, François, vous évoquez ce nouveau féminisme qu'est l'entrepreneuriat.
Bonjour Tatiana Jama.
Bonjour, bonjour.
C'est le titre de votre livre aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes aussi cofondatrice du fonds d'investissement Sista Fund. Alors c'est un fait, il y a nettement moins de femmes qui créent leur boîte que d'hommes. Et du côté des levées de fonds, les entreprises dirigées par des femmes réunissent moins d'argent. Le constat est malheureusement bien documenté. Qu'est-ce qui vous a poussé là, aujourd'hui, à écrire ce livre ?
Alors effectivement, ce constat, moi j'étais convaincue que l'entrepreneuriat était un espace de liberté absolument extraordinaire. C'est pour ça que je me suis lancée à partir de 2009. J'ai fait 15 ans où j'ai créé des sociétés, j'ai levé des fonds, j'ai même vendu ma première société à Amazon. Donc c'était un peu la très belle histoire entrepreneuriale. Et puis j'ai réalisé un jour qu'effectivement, j'avais eu beaucoup de chance et que j'étais plutôt une exception. Et il y avait un espèce de souk d'opinion autour de pourquoi il n'y avait pas assez de femmes entrepreneurs ou autour du fait que les femmes manquaient terriblement d'ambition. Et moi, j'étais entourée de femmes absolument exceptionnelles qui manquaient absolument pas d'ambition. Et donc, j'ai essayé de comprendre. Et pour comprendre, j'ai compté. J'ai compté les femmes pour que les femmes comptent. Et en comptant, on a réalisé que sur l'ensemble de l'argent du venture, c'est-à-dire l'argent qui finance l'innovation, il n'y avait que 2% de cet argent. Deux petits pourcents. 2%, c'est moins qu'un pourboire qui était destiné aux femmes entrepreneurs.
Un aspect que vous analysez beaucoup, vous venez de l'évoquer d'ailleurs, c'est une question, est-ce un problème culturel du côté des femmes ? Est-ce que la flamme de l'ambition de l'entrepreneuriat a moins souvent été attisée chez elles au départ ? Ou est-ce que le monde auquel les femmes entrepreneurs font face, majoritairement masculin, les regarde de travers ?
Alors merci pour cette question, parce qu'effectivement il y a une espèce de croyance collective autour du fait que les femmes manquent d'ambition. Donc moi j'en ai été victime pendant de longues années. Pour la petite anecdote, quand j'ai vendu ma première société quelques jours avant le closing, on m'appelle et on me dit « we need to talk ». En général, quand on dit « we need to talk », ce n'est pas une très bonne idée et une très bonne raison. On va finalement... avec mon associé, on se dit qu'il y a forcément un prud'homme au placard, il doit y avoir un problème. On part à Washington, évidemment, paniqué. On avait mis de côté toute possibilité, le lever de fonds, c'était concentré sur cette vente. Et on avait évidemment plus beaucoup d'argent pour payer les salaires à la fin du mois. On va finalement à Washington, on se retrouve dans une espèce d'immense open space de 3000 m² avec un certain nombre de ballons gonflables, puisque dans les startups, on célèbre les succès avec une espèce de ballons. Alors ça peut être des orques, des requins, des licornes.
Faut pas que ce soit des qui explosent.
Et on nous regarde et on nous dit « Girls, j'étais associée à une femme pendant 15 ans, do you want to build an empire ?» Et on regarde, oui, on n'est pas venu ici pour coller des gommettes, enfin clairement. Non, repeat after me, do you want to build an empire ? Et donc on s'est retrouvés dans cet open space à hurler, we want to build an empire, we want to build an empire. Voilà, pardon. Et donc oui, je veux construire un empire. Cette histoire est un peu absurde, mais c'était un moment de solitude, un peu comme maintenant.
Votre motivation, en fait.
Et on voulait effectivement vérifier, parce qu'il y a une présomption de manque d'ambition des femmes.
Dès l'école de commerce, on vous avait déconseillé d'entreprendre à deux femmes.
Oui, parce qu'on avait un background d'avocate avec mon associé, on nous avait dit mais quelle idée d'entreprendre dans la tech, et ça s'est très bien passé. Et je pense que l'idée aujourd'hui, c'est de mettre en avant ces chiffres qui sont absurdes, de dire que le problème c'est absolument pas les femmes, le problème c'est le système, le fait qu'on pense qu'elles manquent d'ambition, on pense qu'elles vont créer des plus petites entreprises que les hommes, et donc on les finance moins.
Oui, et par les interviews, les journalistes avons notre part de responsabilité, on peut le lire dans le livre, mais tout ce monde auquel font face les entrepreneurs, les banquiers, les clients, les fournisseurs, le système juridique aussi, tous vous regardent différemment et moins bien.
Oui, c'est prouvé. C'est-à-dire que toute la littérature scientifique aujourd'hui, plus récemment des études de Wharton ou de McKinsey, prouvent que les questions posées par exemple par des investisseurs vont être différentes si c'est une femme ou un homme entrepreneur, ce qui va avoir pour conséquence des montants levés différents. Il y a à peu près 2,5 fois moins de fonds qui sont montés. Si on prend un tout petit peu les chiffres, on a 2% donc de l'argent qui est dédié à des femmes entrepreneurs. L'année dernière, c'était encore moins.
Ce qui est terrible, c'est qu'en plus, les tendances ne sont pas forcément bonnes. Les start-up, les jeunes sortant d'école de commerce en ingénieur sont majoritairement des hommes.
Alors oui, mais je pense que là n'est pas complètement le problème. Je pense qu'il y a effectivement des femmes entrepreneurs. Il y en a à peu près 23% de femmes entrepreneurs. Il y a des femmes à financer. C'est pour ça que j'ai lancé un fonds d'investissement. On a reçu 2000 dossiers.
2000 dossiers reçus en quelques mois.
Oui, c'est pour ça aussi que j'ai lancé ça. C'est-à-dire qu'à la base, on avait lancé une initiative pour essayer de faire émerger une génération de leaders diversifiés avec Sista pour mettre en avant ces chiffres. chiffres et on s'est dit on ne peut pas faire avancer ce qu'on ne mesure pas. Donc il faut absolument mesurer. On a mis en place un certain nombre de choses et j'ai réalisé qu'il y avait quand même aussi une opportunité. Et donc j'ai lancé un fonds. On a reçu 2000 dossiers l'année dernière. On a investi dans 6 merveilleuses startups. Ce que j'ai envie de dire, c'est entreprendre est une aventure incroyable et financer des femmes et des équipes paritaires est aussi bien pour l'économie.
Oui, et ça s'appelle Sista Fund et c'est important de le préciser. Vous-même, vous vous êtes rendu compte que c'est important aussi de ne pas être que entre femmes. Et vous avez beau parler de sororité dans ce livre plusieurs fois, vous cherchez vous-même à être diversifié. Parce que c'est un levier économique, c'est important aussi pour ça.
Bien sûr. Quand je parlais de la diversité, notamment des études, je parle d'une diversité de genre, mais aussi de parcours, d'origine. Enfin, plus il y a diversité, plus on arrive à multiplier les points de vue, plus on arrive à dérisquer. Et donc ça, pour le coup, c'est la diversité qui crée justement de la performance.
Alors, il y a tout un tas de petits ou grands outils dans ce livre, donc effectivement mettre des données sur le sujet, on en manque souvent, se rendre compte de ses biais, là vous avez lancé des outils particuliers avec Sista, il y a les lois notamment sur les quotas avec les conseils d'administration, les comités de direction, il y a le fait d'anonymiser les dossiers, et puis un truc tout bête mais qui m'a fait sourire, dans les premiers mails que vous envoyez il y a des années, vous mettiez en copie un homme imaginaire pour faire croire que vous aviez un associé.
Ben oui, parce qu'on attend toujours, quand on monte une entreprise tech, qu'il y ait un homme dans l'équipe. Ouais. Et donc, pour pallier à ça, on avait effectivement, avec mon associé, plein d'avatars. Donc, il y avait des Romains, des Mathieu, tous plus sympathiques les uns que les autres. Ils avaient une identité imaginaire. Et l'avantage, quand ils étaient mis en copie, c'est qu'effectivement, il y avait potentiellement un CTO homme dans l'équipe.
Oui, c'est ça. Il y avait Jean-Jacques CTO ou Jean-Pierre Daff. Quel lien entre entrepreneuriat et féminisme, c'est le titre de votre livre. Pour vous, c'est dans les deux cas, c'est voir le monde comme il devrait être. Essayer de le corriger.
Tout
quoi.
À fait. Je pense qu'entreprendre, effectivement, c'est voir le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être. Prendre conscience de notre pouvoir de le changer, c'est une opportunité extraordinaire. Et le féminisme, c'est exactement la même chose. C'est réorganiser un ordre établi. Je pense que la meilleure façon de briser le plafond de verre, c'est de commencer sur un plancher, de commencer patronne. Et c'est une égalité par la preuve. Une femme qui crée sa société, c'est une dirigeante de plus. Elle s'affranchit des plafonds et elle construit elle-même. On parle d'égal à égal avec d'autres dirigeants. Moi, quand j'ai commencé à 25 ans, je parlais d'égal à égal avec Guillaume Pépi. Il avait des milliers de salariés. Moi, je n'avais pas de salariés. On était deux sur le cabis et dans l'entreprise. Mais je parlais quand même d'égal à égal avec lui.
D'égal à égal, mais parfois en entendant quand même des réflexions ahurissantes que vous avez notées dans votre bouquin, comme le fait qu'un entrepreneur était nécessairement un conquérant voulant répandre sa semence.
C'est terriblement gênant.
Ça et qu'on vous le dise.
Oui, j'ai vécu plein de moments gênants, mais en général, j'hallucine tellement que ça me fait un peu rire. C'est-à-dire que quelqu'un qui me regarde. Merci de rire. Non, mais je pense qu'il faut aussi en parler. C'est-à-dire qu'on a du mal à évoluer. Le poids du culturel est assez dingue. Et ce qu'il faut, c'est arriver à casser ces stéréotypes. C'est ce qu'on fait à travers aussi des vidéos. On essaye de faire en sorte que les gens prennent conscience de l'absurdité de leurs questions, parce que leurs questions, malheureusement, ont des conséquences.
Oui, et vous dites au début du livre que vous ne vous sentiez pas forcément féministe ou engagée sur la question, mais l'évidence des chiffres et du décalage vous a sauté aux yeux.
Ouais,
et vous a donné envie de réagir.
À la base, j'étais entrepreneur et femme, effectivement, passionnée par l'entrepreneuriat. Au fur et à mesure de la création d'entreprise, j'ai découvert qu'il y avait une forme de féminisme dans le fait d'entreprendre, parce que c'était une égalité par l'action, et c'est là où, en tout cas, moi, je place mon féminisme.
Et donc, vous êtes devenu un lobby, entre guillemets, sans l'avoir cherché, avec Sista, cofondée avec Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi, notamment.
Oui, on a cofondé avec Céline Lazorte, parce qu'on venait, effectivement, on a commencé ensemble en sortant d'école de commerce. Elle a vendu une première entreprise qui s'appelait Litchi, qui était la première cagnotte en ligne. Et aujourd'hui, elle dirige Résilience, qui est un système de télésurveillance autour de l'oncologie. Et on a effectivement lancé dans une logique, je ne sais pas si c'est dans une logique de lobby, à la base, vraiment, c'était un coup de gueule, c'était ces fameux 2%. Mmh. On a fait une tribune avec plein de femmes dirigeantes, pas que entrepreneurs, qui se sont finalement senties assez floutées. C'était pas mal de femmes qui avaient beaucoup travaillé autour de Copé Zimmermann. Elles étaient dirigeantes. Il y a des femmes comme Stéphane Pallez, par exemple, qui nous a beaucoup aidées. Voilà. Ou Nathalie Bala. Et elles ont halluciné quand elles se sont dit « Zut !» Aussi, dans ce monde, il y a des problèmes.
Livre très facile à lire, d'autant qu'il est ponctué d'illustrations de CAC, le dessinateur du journal L'Opinion. Merci beaucoup, Tatiana Jama. L'entrepreneuriat, un nouveau féminisme aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
François, demain 6h, vous viendrez projeter votre bienveillance dans la matinale de l'économie. À suivre, David Doucan qui nous fait entrer dans les coulisses de l'agitation trotskiste au service de Jean-Luc Mélenchon, Radio Classique.